Avant de passer quelques moments autour de la parole, on va remettre ces moments dans la prière. Seigneur, nous voulons considérer, et c'est une réalité, que tu es au milieu de nous. Alors Seigneur, nous te demandons de purifier nos cœurs, qu'ils soient libres pour recevoir ce que tu as à dire à chacun. Seigneur, ce n'est pas des mots les uns après les autres que nous allons dire, c'est ta parole que nous voulons entendre. Seigneur, te demandons vraiment d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, qu'ils puissent te considérer, te voir et tourner vers toi. Que nous fassions abstraction de tout ce qui nous entoure, de toutes les pensées qui pourraient nous détourner de toi, Seigneur. Mais tourne nos regards vers toi. Nous avons besoin de toi pour ces moments. Que nous puissions repartir avec encore quelque chose de plus de ta personne. C'est ce dont nous avons besoin, te connaître davantage. Seigneur, merci de prendre soin de ceux qui ne sont pas là. Seigneur, veuille leur parler aussi, nous te les remettons, Seigneur, et nous voulons encore te remercier de ce privilège que nous avons de pouvoir entendre ta parole. Amen. Alors, récemment, plusieurs fois, on nous a parlé des hommes de foi et de la foi, de sa définition dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et toutes ces paroles, tout ce qui nous a été rappelé, m'a profondément interpellé. Ces hommes de foi, quels qu'ils soient, est-ce qu'ils avaient quelque chose de plus que nous? Des dispositions, des facultés, des forces, une éducation que nous n'avons pas? Alors, pour répondre à cela, on va prendre un passage dans les Juges, un passage là encore dont on a parlé plusieurs fois, dans le chapitre 6 des Juges. On va parler de Gédéon. Juges, chapitre 6. On va prendre les premiers versets jusqu'au verset 10. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » On a un drôle de contexte où les enfants d'Israël sont dans la décrépitude. On leur volait tout. On leur laissait ni vivre, ni bœufs, ni brebis, ni ânes, enfin plus rien. À cause de quoi ? À cause de leur péché, parce qu'ils s'étaient détournés de leur Dieu. C'est un contexte qui se peut, pas probablement, sûrement, s'appliquer à notre temps, où tout se dégrade. La morale, les principes, les commandements, même institués par notre Dieu. Comme les enfants d'Israël, l'homme fait ce qui déplaît à Dieu, volontairement, en ayant même le désir de l'éradiquer. On entend parler de l'amour de Dieu, où ? Où est-ce qu'on en entend parler ? Du sacrifice de Jésus autour de nous. Le nom de notre Dieu est profané, mais notre Seigneur ne laissera pas cette situation perdurer. Du temps des juges, la main de Madian fut puissante, c'est marqué, contre Israël. Le constat est le même pour aujourd'hui. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Malgré les avertissements, l'homme refuse de se tourner vers son Dieu, plus il le rejette. On a actuellement tous les jours des débats sur le réchauffement climatique et ses effets dévastateurs sur la nature et sur l'homme. Et encore, nous n'avons rien vu. Mais malgré cela, on constate ce que nous dit la parole de Dieu. On va prendre un petit passage dans Apocalypse 9, les versets 18 à 21. Apocalypse 9, 18 à 21. On parle de fléau, le feu, la fumée, le soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux étant dans leur bouche et dans leur queue, leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. L'impudicité monte pour être à son comble, et en plus, on l'encourage. Et les hommes ne se repentent pas devant tout ce qu'on voit. C'est exactement ce qui se passe de nos jours. L'homme refuse catégoriquement d'entendre les avertissements du Seigneur qui ne désire qu'une chose, que les hommes se repentent, se détournent de leur mauvaise voie et acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur. Mais lorsque nous en parlons autour de nous, même à nos proches, est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? On dit « arrête de nous faire peur ». Rien ne changera, on n'y peut rien. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Devant ce constat, quelle doit être ma position? Me lamenter, m'irriter, en voyant l'endurcissement du cœur humain? Alors voyons, après avoir vu le contexte dans Juges 6, dans lequel donc était le peuple d'Israël, peuple sous le joug de Madian, son ennemi, malheureux, voyons ce qui va se passer. Alors on va lire la suite de Juges 6, du verset 11 à 22. Juges 6, 11, 22, la suite. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Géséon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébenthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit « Prends la chair et les pains sans levain. Pose-les sur ce rocher et répand le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors, mettons-nous à la place de ce Gédéon, du constat qu'il fait lorsque l'ange de l'Éternel se présente à lui. C'est un riche notable, ce Gédéon. Ben non, c'est un pauvre fils de paysan, probablement pas habitué aux joutes guerrières. Et il est en train de battre du froment pour le mettre à l'abri des pillages des Madianites, lorsque le Seigneur se présente à lui. Et de plus, il est le plus petit de sa famille. Et sa famille est la plus pauvre de Manassé, de la tribu. Et voilà le Seigneur qui lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. » C'est lui que Dieu choisit pour mener le peuple à la victoire, alors qu'il n'a aucune capacité. Encore une fois, mettons-nous à sa place. Lève-toi, vaillant héros, toi qui es le plus petit du peuple, donc probablement le plus inutile, celui qui n'est pas le plus adapté pour une telle mission. Nous avons le privilège, mais est-ce que c'en est un, de connaître la fin de l'histoire. Nous savons que Gédéon va partir avec 32 000 hommes pour combattre, et qu'à la fin, il ne restera que 300. Choisi par Dieu, qui avec des cruches et des flambeaux dans ses cruches, et des trompettes, sans même une seule épée, sans affronter face à face un seul ennemi, il va les mener à la victoire. Et au final, si vous lisez la suite, 120 000 Madianites vont être tués. Comment est-ce possible? Comment Gédéon a-t-il pu accomplir une telle folie? Car si on considère le point de départ et l'arrivée, il s'agit d'une pure folie inconcevable pour la raison humaine. On connaît l'histoire, comme on l'a dit, mais lui, est-ce qu'il la connaissait? Est-ce qu'il savait qu'il allait partir avec 300 bonhommes, avec des trompettes et puis des cruches? Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Mettez-vous à sa place. Et le Seigneur lui dit, « Vaillant héros, moi si j'entends ça, je me retourne. Je dis, il y a quelqu'un d'autre derrière moi. Ce n'est pas moi qui dis ça. » Comme Moïse devant le buisson ardent, qu'est-ce qu'il va dire? Envoie qui tu veux, mais moi non. Hein. C'est exactement ça. Et Gédéon reconnaît son incapacité et voit les circonstances. Il dit, « Mais si tu es avec nous, pourquoi toi, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte, sommes-nous dans la misère entre les mains de Madian ?» Voilà le constat. On est dans la défaite, alors que toi, tu es un Dieu de victoire. Je connais tes histoires. Est-ce qu'on ne peut pas aussi appliquer cette position à nous quand on est dans la détresse, dans l'épreuve? Dire, Seigneur, tu vois, tu peux toute chose, mais à moi, ce n'est pas possible. Je suis dans une détresse telle, je suis dans le fond du trou, mais je sais que tu es puissant, que tu as déjà fait des miracles. Et c'est une réalité, mais moi, tu n'y arriveras pas. C'est un peu ce que Gédéon dit. Et on voit son incapacité, en même temps, sa faiblesse, parce qu'il dit, ben, si tu es avec nous, si vraiment tu m'as fait grâce, ben, il va demander à ce que la toison soit humide et puis qu'elle soit sèche. Enfin bref, il va demander des signes au Seigneur pour lui demander vraiment s'il est sûr qu'il est avec lui. Voilà ce Gédéon, ce vaillant héros. Tu me parles de victoire et on est sous le joug de l'ennemi. Mais il y a deux choses qui vont tout changer. Tout d'abord, l'affirmation du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui lui parle. L'Éternel est avec toi. Et il va le répéter, ça c'est au verset 12 du chapitre 6. Il va le répéter une deuxième fois au verset 16. « Mais je serai avec toi. » Ça c'est une promesse. « Et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. » Mais pourquoi le Seigneur choisit-il ce Gédéon, ce pauvre parmi les plus pauvres? Pourquoi il ne choisit pas un chef, un guerrier, un homme instruit? Tout simplement parce que notre Dieu agit toujours selon les mêmes principes. Je vous lis ce verset 15 du chapitre 57 d'Ésaïe. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » C'est exactement ce qui va se passer. Devant cet homme humble qui reconnaît son humilité et sa petitesse, il dit « Je suis avec toi. » Et ça suffit. Il a fait de David, le Benjamin de la famille, celui qui gardait les moutons, le plus grand roi d'Israël. Il a destitué Saül parce qu'il ne se considérait plus comme petit à ses yeux. Gédéon n'avait aucune force en lui-même, aucune capacité, et il le dit. Mais il a une vraie crainte de Dieu. On le voit. Car avant toute chose, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, reste là, je vais faire une offrande. Il fait une offrande à son Seigneur et ensuite il va demander la preuve qu'il a trouvée grâce parce qu'il sait qu'il ne mérite pas la grâce de Dieu. Est-ce que ce n'est pas notre cas? Je suis avec toi parce que tu m'as reconnu comme ton Seigneur. Alors, ne crains pas, je suis avec toi. Si Gédéon demande l'épisode de la toison, probablement sa foi n'était pas complètement accompli, Mais le Seigneur va l'amener à la perfection, comme il le fait avec nous. C'est lui qui mène la foi à la perfection. Et Gédéon se trouve indigne de cette grâce. Il va dire d'ailleurs, « Malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel, comme Isaïe. » Mais la grâce de Dieu va s'accomplir. Gédéon, on l'a dit, n'a pas été choisi en raison de ses aptitudes, de sa position, ni de ses forces, mais parce que le regard du Seigneur est sur le cœur. Celui qui est affligé par l'état du peuple et qui en souffre, parce qu'il a une réelle crainte de l'Éternel et qu'il a le désir d'honorer son Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui dit « Vaillant héros, toi qui es le plus petit, je vais faire de toi le plus grand. » Mais non dans le but de te glorifier, toi, mais dans le but de manifester ma gloire. C'est ça que le Seigneur lui dit. Et il n'y a pas seulement ce que dit le Seigneur à Gédéon qui est important. On a dit « Je serai avec toi ». Il y a la position de Gédéon. On a vu son humilité face à son Dieu, mais il aurait pu en rester là. Je suis rien dans l'assemblée des tupes, je ne sers à rien, je n'ai pas de ministère particulier, à quoi bon? Mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros, c'est à vous que ça s'adresse. J'ai pas de force? C'est très bien. Va avec la force que tu as. Tu n'as aucune force? C'est parfait, parce que c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui te donne la force. Mais tout d'abord, va. Combien de fois dans la parole il y a cet ordre? Va, lève-toi, ne reste pas assis ou immobile, mais obéis. Dans Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3, on a la même position. On peut le prendre ensemble. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà une promesse. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, mais à une condition. Va-t'en de ton pays, quitte tout, quitte ta vie d'autrefois, ta patrie, tes habitudes ancestrales, tout ce qui est ta vie finalement. Ça demande quoi? Sinon la foi, la vraie. La promesse s'est réalisée pour Abraham. Il est devenu Abraham avec des obstacles, des chutes, mais la promesse s'est accomplie en raison du verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. La foi en la parole, sans savoir ce qui allait advenir. Imaginez encore là encore, Abraham, on connaît toute la suite, mais imaginez qu'on vous dise, allez hop, va-t'en, quitte tout, t'iras où je te dirai. Ben où? Ben c'est moi qui te le dirai. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, il a tout abandonné. Il a emmené Lot avec lui, bon, ça n'a pas été un grand succès, mais néanmoins il est parti. C'est une vraie foi, la foi en la parole. Comme Gédéon, qui n'avait aucune force, mais qui obéit à la voix de son Dieu, Abraham est parti, toujours le même principe. Comme Ruth aussi, la Moabite, qui n'était pas une femme destinée à bénéficier des promesses de Dieu, elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Elle s'est retrouvée veuve, sans rien. Et que dit-elle à sa belle-mère, qui lui propose de retourner dans son pays, en vue d'une vie meilleure? Elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'avenir, elle n'a plus un sou. Je vous lis au chapitre 1 du livre de Ruth, les versets 15 à 17. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » C'est ce que sa belle-sœur a fait. « Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, va. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Voilà la décision de Ruth, sans savoir où elle allait, sans savoir si elle allait avoir un mari, sans savoir si elle allait avoir même une profession et de quoi manger. Rien. Mais que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Vous avez vu où ses yeux sont tournés? Vers l'Éternel, vers Dieu. C'est ça qui prime pour elle. Un choix, une obéissance, un attachement au Seigneur. Elle part, quelles qu'en soient les conséquences, sans savoir aucunement ce qui va lui arriver, mais son attachement à sa belle-mère et à son Dieu a plus de prix que le reste. Et va, comme le Seigneur a dit, avec la force que tu as. Tu n'en as pas besoin d'autre. C'est moi qui vais t'équiper. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Qu'est-ce qui nous est dit? C'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens 12, 9 et 10. On va le prendre ensemble. Et le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Pas besoin de capacité, quelle qu'elle soit. Croyez-vous qu'Abraham, Gédéon ou Ruth connaissaient les moyens par lesquels le Seigneur allait les employer ou le chemin par lequel ils allaient les faire passer? Aucunement. Ils étaient comme nous, dans le même état, ni plus forts, ni plus faibles, mais avec le même Dieu, celui qui te dit « Je suis avec toi, va avec la force que tu as ». N'attends pas d'être plus apte, ni plus fort, car maintenant le Seigneur nous dit la même chose qu'il a dit à Josué. Et là, on va prendre, pour la fin, Josué, le chapitre 1, versets 5 à 9. Josué 1, versets 5 à 9. C'est les mêmes choses que Gédéon, hein. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et Romains 8, 31, pour terminer, nous dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» La seule chose que toutes ces personnes dont nous avons parlé ont fait, c'est croire, non pas en l'état des choses, non pas dans les circonstances qu'ils vivaient, sinon ils ne seraient jamais partis, mais de croire uniquement en ce que Dieu leur avait dit. « Je suis avec toi, ne crains pas, ne t'épouvante pas. » S'il dit ça, c'est qu'on a la tendance à le faire. On a besoin de tout cela, on a besoin d'être fortifié, mais de regarder à lui, parce qu'il nous a fait une promesse, c'est qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et si on reste assis, on ne va pas aller plus loin, hein. Si vous prenez votre voiture et puis que vous n'ouvrez pas la porte du garage, elle ne veut pas aller loin, la voiture. Mais c'est le Seigneur qui ouvre les portes. Il demande simplement de mettre la marche avant et puis d'y aller avec la force qu'on a. C'est tout simple. C'est tout simple, mais ça demande encore d'autres participations. Le Seigneur me demande simplement de lui faire confiance, une confiance totale. 2 Corinthiens 5, 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir.